un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Son nom de scène, c'est Jah Prince, et c'est une star. Il a rempli des stades entiers en Afrique, des salles de concert bondées, connu la gloire au printemps de Bourges et multiplié les fans de sa musique singulière, tantôt joyeuse, tantôt envoûtante. En 2003, Jah Prince and the Prophets sortent un premier album intitulé « Prisonnier de Babylone » et enchaînent avec une solide carrière dans le reggae. En Côte d'Ivoire dont il est originaire, il fait partie des 10 meilleurs, explique un critique musical dans Le Parisien. Un de ses tubes les plus connus, c'est celui-là.
Nous avons trop pleuré, nous avons trop crié nos douleurs.
Sauf que la gloire ne dure pas et que la suite ne se passe pas comme prévu. Son ascension est suivie d'une chute brutale avant peut-être sa prochaine renaissance. Son histoire fascinante ressemble à bien des égards à celle de Sixto Rodriguez, immortalisé dans le film Sugarman de Malik Bentjelloul, mais un peu à l'envers. Au début des années 70, souvenez-vous, Sixto Rodriguez, chanteur, sort deux albums couronnés d'un certain succès d'estime, mais qui l'obligent à continuer d'enchaîner les petits boulots à Détroit, dans le Michigan, où il demeure. Ses chansons connaissent cependant une deuxième vie extraordinaire lorsqu'elles sont piratées et diffusées en masse en Afrique du Sud. Il y devient sans s'en douter le moins du monde, l'idole des jeunes des classes moyennes, incarnant leurs aspirations à la libération, à l'égalité sociale. Il a écrit, dit Le Monde, la bande-son d'une jeunesse blanche en lutte contre l'apartheid. Son album Cold Fact devient disque d'or en Afrique du Sud, mais Rodriguez l'ignore tout autant et n'en touche aucune rémunération. Son tube mondialement connu, à lui, c'est celui-là.
Sugar Man met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal.
Pendant tout ce temps, ses fans le croient mort. D'une façon tragique, il se serait immolé par le feu ou suicidé par balle, dit la rumeur, à moins qu'il ne soit en prison pour avoir tué sa femme, comme le prétend un autre bruit. Jusqu'à ce que deux d'entre eux le localisent à Détroit au cours des années 90, où il vit quasiment dans la misère. Ils organisent alors plusieurs concerts en Afrique du Sud en mars 98, où devant des milliers de personnes qui l'adulent, il devient la star qu'il a toujours été. Le documentaire qui raconte sa vie reçoit un Oscar. L'histoire de Prince Saint Florent Seri, alias Jah Prince, que nous évoquons aujourd'hui, n'a pas encore connu la happy end de Sugarman. Mais nous n'en sommes peut-être pas loin, comme le raconte Rémi Dibowski-Douat, qui est allé le rencontrer non pas à Détroit ou à Abidjan, mais dans le bois de Vincennes, où il vit parmi d'autres sans-abri.
Je m'appelle Prince Serge Saint-Florent-Séry. J'ai 61 ans. Ça fait 10 ans que je vis dans le bois de Vincennes, sous une tente. Ben, autour de nous, c'est la nature. Déjà, il y a les arbres, il y a la verdure. Il y a mes tantes qui sont là, avec quelques affaires ici, quoi, dans le bois. Il y a quelques voisins, bon, il y en a, on est pas mal dans le bois, plusieurs, mais chacun dans son espace, donc des fois, comme c'est l'hiver, on voit pas trop les gens sont plus à l'intérieur d'eux-mêmes. Je vis indécemment, je veux dire, je vis pas riche, quoi, je vis de façon simple, avec le minimum. Allumer un petit feu pour faire un peu de quoi manger, quand il fait froid, bon, on se contente des peu de choses, des fruits ou des choses à cuire. Parce que les gens pensent que oui, vivre dans le bois, c'est le luxe. Non, c'est pas le luxe. C'est... Il y a le froid qui peut déranger deux fois, selon les époques, selon les saisons. Donc, je fais au mieux, c'est-à-dire, je trouve des moyens pour avoir toujours chaud. J'ai une couette et des fringues, des habits, pour ne pas avoir trop froid. Voilà. C'est plus la chaleur de l'esprit que je cherche, donc toujours à penser à des bonnes pensées, je fais l'esprit et le corps. Ouais. Deux fois, on peut se réveiller avec les pieds gelés, les mains gelées. Mon esprit reste quand même vigilant par rapport à ne pas me laisser abattre par les choses que je vis et tout. J'essaie de garder quand même un peu de tranquillité à l'intérieur de moi. Il faut faire avec, voilà, c'est tout. J'ai grandi à Aulnay-sous-Bois, dans le 93, voilà, avec mes frères et sœurs, ma famille, mes parents, ils étaient là. Mon père était expert comptable, mon père assez instruit, donc il voulait que j'aille à l'école. On avait une vie un peu assez aisée, puisque mon père gagnait assez d'argent. Je manquais rien quand j'étais enfant, j'avais tout. Bon. C'était une enfance très heureuse, puisque... Bon, j'étais joyeux quand même, mon père nous donnait presque tout ce qu'on avait besoin pour atteindre cet état-là. Quoi. Mon père, il n'est pas seulement expert comptable, puisque mon père s'intéressait à d'autres choses, comme tenir le groupe de gospel dans les églises et tout. Voilà, à Batignolles, il était chef des chantres, il tenait 50 personnes sous son aile. Donc, en tant qu'enfant, j'étais fasciné. Chaque fois que mon père chantait et qu'on chantait dans l'église, qu'on nous demandait de chanter, bon, c'était un cadeau quoi, du ciel. Et je commençais à partir dans cette émotion de la musique. Hein. Du jour en jour, je m'inspirais et je faisais un peu de guitare. Et donc tout jeune, je commençais à chanter, à composer. J'étais un peu interpellé quand même par la musique et l'art. Au fur et à mesure que je grandis, je vais avoir 12-13 ans... J'ai écouté Bob Marley et d'autres musiciens. Et du coup, ben, je me laisse pousser les cheveux. Je commence à avoir des dreadlocks. Et du coup, mon père, lui, il ne sait pas. Parce que je mets tout le temps une casquette sur ma tête. Et c'est un jour, parce que j'ai des oncles qui viennent d'Afrique. On est tous là, les enfants, les tontons. Une grande table, on est tous autour. Et moi, je porte ta casquette et... Ça fait pas poli d'être à table avec une casquette. Ça fait pas éduqué. Donc mon oncle qui fait la réflexion à mon père. Comment ça, Martin, tu remarques pas que ton fils, il a une casquette? Ça fait deux fois que je mange là et il a tout le temps une casquette. Ça veut dire quoi, ça? Quand on mange, il y a les dames, il y a les gens, et ils se décoiffent pas et tout. C'est quoi, ça? Et mon oncle me regarde, il me dit, Prince, tu vas pas te découvrir. Après, tu pourras mettre ta casquette, non? Moi, je savais pourquoi je voulais pas me découvrir. Je ne rentrais plus dans la norme. Donc, quand j'enlève ma casquette, oh, ils ont fait « Ah, mais comment ça qu'il a des cheveux comme ça ?» Il est resté. Il fait le truc de Bob Marley ou quoi? Voilà, du coup, mon père, mon oncle, tout le monde comprend que je suis resté. Et ils acceptent. Vers 17 ans, le choix de rentrer en génie civil, mais j'étais encore pris par cette parole qui me parlait depuis mon enfance intérieure, qui me disait, mais non, c'est la musique qui est en chemin et tout. Mon père, lui, il veut que je sois en génie civil, je suis architecte, je comprends bien sa pensée, je suis pas contre. J'aime aussi voir une belle ville construite, j'aime bien aussi voir un beau pont qui fait qu'on peut traverser d'un espace à un autre. J'aime bien aussi voir un terrain de jeu où les enfants jouent, on a des bacs à sable ou des choses comme ça. J'aime tout ça. Mais j'aime aussi voir des gens qui sautent de joie, qui dansent, qui s'expriment, qui se libèrent parce qu'ils entendent du son. Donc, le son, pour moi, c'est vital. À 21 ans, ben, je plaque tout, je monte mon groupe et après ça, je prends des décisions plus sérieuses pour la musique, vraiment. Donc, j'arrive en Côte d'Ivoire, pays où le rastafarisme est mal vu, la barbe et les cheveux étaient interdits, de les avoir longs. Moi, étant arrivé avec des dreads jusqu'à mes reins, ils voulaient forcément qu'on me rase. Et je me suis retrouvé emprisonné à la MACA, c'est la maison d'arrêt de correction de Côte d'Ivoire d'Abidjan, voilà, en 87. pendant 3 semaines, j'ai insisté à pas vouloir me raser, puis après j'ai accepté. Et dès que je me suis fait raser, ben, ils m'ont libéré. Et après, je me suis retrouvé sans loque, sans rien. C'était pas chose faite, ouais. Donc, je suis installé en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, on sait bien que la musique, c'est quelque chose d'essentiel. Il y a beaucoup d'artistes et tout. Et moi, du coup, je rentre dans tout le milieu. À force de tourner ma petite bosse et tout au soleil, ben, je me fais repérer par des producteurs, je me fais repérer par des gens. Un mec qui arrive des États-Unis qui s'appelle Dr. Bill, qui organise un gros festival qui s'appelle Rock in Marlboro. Parce que lui voulait 25 groupes pour toute la tournée des Côtes d'Ivoire. Et j'y vais, Tikenja vient avec moi là-bas, il fait la première partie. Et je suis invité en guest star dans les gros festivals et tout. Voilà, je suis devenu le pionnier du reggae made in Africa. Je monte des groupes, je monte des formations, je envoie des jeunes à la télé, je me mets plus sur le côté travail, le côté pratique, le côté orchestration, le côté savoir enregistrer un groupe, le côté savoir arriver à avoir des matières, de peaufiner une chanson, d'amener les harmonies, les arrangements qu'il faut, dans les gammes qu'il faut, les tonalités, les trucs. Je rentre dans le truc musical, mais vraiment intense. Il y a un moment que je partageais aussi un peu ce que je gagnais. Et en même temps, je suis un enfant de bonne famille, donc toujours un peu d'argent. Donc je prends fouille un peu dans les caisses et je me lance dans les affaires. Et je commence à produire, j'appelle tous les musiciens, je donne ce qu'il faut pour qu'ils soient à l'aise et je les amène dans les studios pour travailler avec moi, pour produire. Donc moi-même, je deviens producteur. Je deviens important, donc je rentre en France. Chercher du matériel en Europe pour construire des écoles, construire des trucs pour vraiment que le reggae soit une musique nationale en Côte d'Ivoire, lui donner sa place nationale et tout. On va chercher les moyens et revenir avec. Des malheurs m'arrivent, je perds ma mère. Je suis un peu déstabilisé, l'énergie n'est pas totale. Jusqu'en 2010, et je dis bon, on va retourner en Afrique. J'avais quelques économies que j'avais faites, du matériel que j'avais gardé, des trucs que j'avais rachetés, tout ça. Et je mets tout ça en container et j'amène ça pour l'Afrique. En 2010, malheureusement, j'arrive dans un pays où on est dans une crise politico-militaire. Entre Gbagbo et Alassane Ouattara, malheureusement, il y a un embargo sur la Côte d'Ivoire, tout est bloqué. Donc j'apprends que les douaniers ont mis la main sur tout mon matériel et voilà, ils ont confisqué tout. En plus, j'avais pas que du matériel de musique, j'avais des camions plus de voitures. Là, j'ai tout perdu. Les Rastas sont toujours dans ce pays-là, mal vus. J'ai vu que l'armée du gouvernement s'est attaquée aux Rastas, allait couper leurs cheveux, leurs barbes et tout, allait traiter mal. Dans aucun pays du monde qu'on agit comme ça avec les Rastas. Et là, vraiment, en Côte d'Ivoire, j'ai trouvé que c'était un peu barbare de raser les barbes des Rastas et de ne pas les respecter leur religion et leur foi. Et après, même ça, ça a continué même en 2012, 2013, 2014. Le 21 novembre 2012, je suis arrêté à mon domicile pour consommation de chanvre. On fouille mes cendriers, on fouille ma maison, on trouve rien. On trouve juste parce que je fume de l'herbe, je mange des plantes. Je suis un végétarien. Ah ben, il a de l'herbe ici. Vas-y, on le prend. Je me retrouve embarqué Pour moi, j'ai pensé que c'était un kidnapping parce que même ils sont venus en civil. Donc, il n'y avait rien de police, il n'y avait pas de papier de juge, il n'y avait rien. C'était juste la force. Et la force qui fait peur, quoi. C'est comme si des bandits viennent chez vous, quoi. Donc, du coup, je les suis, je pars. Et je me retrouve 3 jours au commissariat avec leurs trucs. Et puis après, me défaire devant le juge. Il y a un procès, ils m'ont donné 1 an de prison. Donc, je me retrouve emprisonné à la maison d'arrêt d'Abidjan. La vie en prison n'était pas facile, c'était vraiment dur. Ma cellule, on était à au moins 50 dedans. Les conditions de vie et d'hygiène étaient très insalubres. C'est en Afrique, il fait très chaud, donc on transpire tous. On n'a pas les moyens d'avoir des douches pour se rafraîchir, donc on était à plusieurs, en fait, dans la cellule. D'autres dormaient par terre, d'autres dormaient sur des tables, d'autres dormaient sur des chaises. Quelques-uns avaient des lits en bois, des privilégiés et tout, par rapport aux autres prisonniers. Et en plein midi, dans l'obscurité, et il y en a qui attendent le seul repas quotidien qu'ils attendent le jour, qui s'appelle le benzin. Et en fait, c'est comme genre de purée, car on aurait mis des épingles, des boutons de chemise, des cheveux, tout est mélangé dedans. Bon, ceux qui n'ont pas de parents pour leur amener rien, ben, sont obligés de s'accoutumer à cette nourriture. Et on avait des invasions de l'armée ivoirienne qui venait rentrer dans la prison pour s'attaquer aux prisonniers, à tirer sur eux. Ça fait beaucoup de morts, beaucoup de blessés, tout ça. Donc, on vit vraiment dans des conditions difficiles et il faut faire avec, en fait. Il ne faut pas se décourager, hein, c'est pas la fin du monde non plus, mais c'est quand même le début d'un monde très difficile. Je rentre en 2012, 1 an plus tard, je suis libéré de prison. Quand je sors, je rentre chez moi dans mon domaine. Et j'ai l'armée qui est chez moi tous les matins, tous les soirs. Je vois un jour qu'ils viennent avec des bulldozers pour me casser les maisons, tout ça. J'ai toutes mes affaires dedans, les affaires de mes enfants, tout. Qui m'ont tout dépouillé, ils ont tout pris mes trucs. Et ça faisait 30 ans que j'avais ce terrain et ces maisons. Tu vois. Donc j'ai tout perdu, des choses, toute mon histoire de là-bas est partie en un jour comme ça, quoi. Voilà, en fumée. Et l'État de Côte d'Ivoire m'expulse vers l'Europe et m'interdit du territoire ivoirien pendant 5 ans, quoi. En général, on voit bien des Noirs être rapatriés vers l'Afrique. Mais un Africain noir rapatrié vers la France, quand même, pour des Africains rejeter leurs frères, c'est le pire de ce que j'aurais vu depuis que je suis sur la Terre. C'est la première fois que je vois qu'un Noir, on le rejette de l'Afrique vers l'Europe, tu vois. Je rentre en France, voilà, en 2014, démuni de tout, n'ayant aucun droit, donc tout ce que j'avais d'économie, à zéro. Et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de prendre recul avec ce que j'ai vécu. Donc, prendre du recul dans une ville comme Paris, je me vois mal le faire, parce que avec tout le bruit, tout ça et tout, vraiment, je me sentais pas en train de prendre vraiment conscience de ce que je venais subir en ville. Donc, j'ai fait un retrait vers la brousse, comme on dit chez nous. Et la brousse, c'était le bois d'une scène. Voilà, donc, trouver un coin discret où je pouvais être caché et puis me ressasser, repenser à ce qui m'était arrivé. Donc, j'avais besoin de recul, vraiment. Donc, le recul, je l'ai pris par ici, voilà. Donc, revenir à zéro, recommencer tout à zéro. Voilà, dans le bois, avec les oiseaux, avec les hérissons, avec ce qu'il y avait dans la nature, essayer de compatir avec eux, essayer de m'harmoniser aussi ce temps avec la nature, qui était aussi un signe d'instruction pour moi. Après ce que j'avais reçu, j'avais besoin d'apprendre autre chose. C'est le dernier des choix, en fait. C'est c'est quand on a le dos au mur qu'on peut plus reculer, qu'on arrive à voir ces gens du choix. C'est pas un choix qu'on peut brandir, c'est le choix quand on n'a plus du recours, quand on a le dos au mur, quand on peut plus reculer, qu'on peut plus aller nulle part. C'est là qu'on peut faire ce genre de choix. Et comme moi, j'étais dans cette condition du dos au mur et je pouvais plus reculer, j'avais que ce choix-là. Tout ce que j'avais là-bas a été pris. Tous mes investissements sont tombés à l'eau et j'étais à zéro, zéro, zéro. En fait, je suis parti fort et je reviens dépouillé des tout à zéro. Faible. D'abord, mes albums étaient... J'avais 3000 CD dans mon conteneur qui a été pris par l'État ivoirien, piraté par l'État ivoirien. Un centime n'est jamais rentré. Tout mon matériel des scènes, il y avait 10 000 kilos de sang à des portées distancielles. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ils utilisent mon matériel, je suis sûr, parce qu'ils n'ont pas à dire qu'ils vont jeter ça dans une poubelle. Ils utilisent, d'autres personnes l'utilisent pour gagner de l'argent. C'est pas moi qui le gagne, cet argent. Donc, il n'y a que de l'entourloupe. Et ça, franchement, je trouve ça aberrant. Je trouve ça injuste. J'ai besoin de réparation de toutes ces choses-là. J'attends vraiment que l'État ivoirien se réveille un matin pour me dire que, voilà, tes droits, on te les rend, tu vois. C'est juste ça que j'attends de la Côte d'Ivoire et je suis encore patient. Il y a quelques mois, il y a un virage important qui va se faire dans ma vie. C'est quand un journaliste avisé du Parisien arrive dans le bois avec quelques travailleurs sociaux qui connaissent un peu mon état des musiciens, qui connaissent un peu ma vie, amène ce journaliste vers moi parce que lui, il cherchait vraiment à faire un papier important sur le bois de Vincennes et il décide d'écrire un article sur moi. Il me demande est-ce que je suis partant. Au début, je n'étais pas trop chaud parce que j'étais toujours pour être dans ma discrétion. Mais quelque part, bon, je suis artiste aussi, je suis musicien. Donc, quand un journaliste avisé vient avec un esprit bien déterminé pour venir déterrer ce qui était enfoui dans cette terre, du bois de Vincennes qui était déjà pris, ce qui était là avec d'autres personnes, c'est comme si il me ramène à la vie en fait. Donc après j'accepte. Et donc après ça, ce truc, la sortie de son papier dans le Parisien, avec tous les réseaux qu'il y avait autour, Dailymotion, Facebook, Instagram, tout ça, on est arrivé à 2 millions de vues. Alors là, ça fait un gros buzz.
De la scène au bois de Vincennes, c'est la dure réalité que vit une ancienne figure du reggae africain des années 90.
Je suis Jah Prince, musicien. J'ai pas de maison, j'ai plus rien, j'ai tout perdu en Afrique.
Tous les princes n'habitent pas dans un château.
Depuis 13 ans, je subis parce que le poids de la vie, parce que je peux pas être actif comme je voulais.
Renouer avec la musique, retrouver un logement, le prince du reggae n'a pas fini d'espérer.
Ça, c'est des photos pour le New Morning.
Assis sur l'arbre, et on va faire avec... sans la guitare et avec guitare. Avec un grand sourire.
En ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont au courant de cette histoire et qui sont en train de œuvrer pour que je parte d'ici. Notamment la SACEM, notamment, voilà, parce que le journaliste avait fait même l'enquête d'aller voir eux s'ils me connaissaient et si j'étais vraiment un artiste. Il était parti faire son enquête. Et oui, ils me connaissent et qu'ils sont en train d'œuvrer pour me trouver quelque chose. Ils n'ont pas la sourde oreille, ils sont à l'écoute, quoi, en fait. Et du coup, à partir de là, j'ai eu plusieurs contacts, plusieurs gens qui m'ont appelé. Et dans ces gens-là, il y a le New Morning, des promoteurs qui m'ont demandé « Est-ce que tu es partant pour faire le New Morning ?» Et c'est comme ça que je vais finir par remonter sur scène au mois de juin. Ça me fait vraiment plaisir parce que, voilà, je sais que quand je serai sur scène, je verrai dans les yeux de mes fans et tout qui sont devant moi, je verrai si ça brille ou pas, si ça brille de la joie ou pas. Mais je pense qu'il y aura un truc qui va se passer entre le public et moi, donc... ce temps-là, je l'attends ce jour-là, tu vois, de voir dans les regards des gens, dans leurs mouvements, comment ils se sentent bien. J'attends ça avec patience, voilà. Ce partage-là, il y a un partage entre le public et moi et mes musiciens. Donc, c'est surtout ça que j'attends, parce que ça fait déjà quelques années. Ouais, c'est ma richesse, c'est ce que je prends pour moi, quoi. C'est que dès que je sens qu'ils sont bien, ben, pour moi, je suis riche, quoi. Voilà.
My job 2 weeks before Christmas. And I talked to Jesus at the sewer, and the Pope said it was none of his goddamn business. While the rain drank champagne, my Estonian archangel came and got me wasted. Cause the sweetest kiss I ever got is the one I've never tasted. Oh, but they'll take their bonus pay to Molly McDonald. Neon lady, beauty's that which obeys, is bought or borrowed.
C'était une star du reggae, vit dans le bois de Vincennes, un reportage de Rémi Dibowski-Douat réalisé par Alexandra Candy Longuet. Merci bien sûr à Ja Prince et à Lucille Masson. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Et notre stagiaire, c'est Nour Mohamedi.
And I make 16 solid half-hour friendships every evening. Cause your queen of hearts, who's half a stone and likes to laugh alone, is always threatening you with leaving. Oh, but they'll play those token games on Willie Thompson and give a medal to replace the son of Mrs. Annie Johnson. Cause they told me everybody's gotta pay their dues, and I explained that I had overpaid them. So overdue, I went to the company store, and the clerk there said that they had just been invaded. So I set sail in a teardrop and escape beneath the door sill. Cause the smell of her perfume echoes in my head still. Cause I see my people trying to drown the sun in weekends of whiskey sours.
Cause how many times can you wake up in this comic book and plant flowers?